Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur Radio Judaïka et on a vraiment la chance de recevoir pour une deuxième émission M. Ephraim Herrera, dont on a entendu son histoire un petit peu, son parcours, et comment est-ce que à la fois la science, la Torah, les études qui sont celles sur l'islam, mais également la pensée de Manitou, les questions de société, la pédagogie, autant de choses extrêmement intéressantes dont il nous a fait un petit peu partager. On avait envie d'en connaître beaucoup plus sur vous. Vous serez là à Strasbourg les 29 et 30 mai à l'invitation du CIBR et également de Mizrahi. Donc on pourra discuter avec vous largement, on vous écoutera également, vous serez présent dans plusieurs communautés et vraiment ce sera un grand moment je pense pour nous. Un grand merci donc d'accepter cette invitation. Alors aujourd'hui on va parler d'un point particulier qui vous a fait connaître ces derniers temps. Vous nous avez dit que c'est venu un peu plus tard dans votre parcours, mais aujourd'hui c'est vraiment souvent pour cela qu'on fait appel à vous dans les réseaux sociaux, dans des chaînes de télévision, également pour ceux qui connaissent les petites capsules chauffards. Donc on vous lit également, vous êtes devenu un expert de l'islam de manière générale. Alors vous avez montré que ce qui vous a amené à cela, c'est l'impressionnante haine que vous avez vue de la population qui se trouvait sur le mont du Temple en l'an 2000. Et donc cette haine qui existait chez ces personnes-là vous a amené à essayer de réfléchir. Alors j'imagine que vous avez découvert beaucoup plus que de la haine dans l'islam, puisque vous avez étudié vraiment les texte et vous l'avez montré ici en ayant un doctorat à la Sorbonne. Justement, dites-nous un petit peu ce qu'il est important que chaque juive sache sur ce monde qui est très riche.
Absolument, il faut distinguer avant tout entre les musulmans et l'islam. C'est-à-dire que ce dont je vais parler maintenant, c'est l'islam orthodoxe classique tel qu'il s'est façonné du vivant de Mohammed, du fondateur de l'islam, est tel qu'il s'est exprimé dans les textes, est tel qu'il s'est exprimé dans l'histoire. Ensuite, tel ou tel musulman pourra suivre ou non cette orthodoxie, mais il est très important de connaître cette orthodoxie. Alors, comme vous l'avez mentionné, j'ai commencé à étudier ça très sérieusement au début de la seconde intifada. J'entendais des cris que je ne comprenais pas, mais j'entendais Yahoud. Yahoud, c'est des juifs. Ils sont en guerre avec Israël ou avec les Juifs. Et ils disaient, une fois que j'ai appris l'arabe, « Idbah el Yahoud », ça veut dire « faites un sacrifice,
égorgez
les Juifs ». Et puis ils disaient « Khaybar khaybar ya Yahoud, Jaish Mohammed saoufa Yahoud ». Ce qui voulait dire « Khaybar khaybar Juif, l'armée de Mohammed reviendra ». De quoi ça parle? C'est quoi Khaybar? Pourquoi des événements, puisque c'est une des guerres de Mohammed contre une tribu juive qui vivait pas loin de Médine, comment ça influence encore aujourd'hui? Comment est-il possible que des événements qui sont arrivés il y a 1400 ans, façonnent aujourd'hui la pensée des peuples musulmans qui nous entourent? Et donc je suis arrivé à la question, quelle est la nature de cette guerre? Il faut faire l'effort de comprendre le rationnel musulman. Il faut le faire avec, en hébreu on dit avec kavod, avec respect. Parce que pour comprendre celui qui est face à moi, il faut que je comprenne ses idéaux. Il faut que je comprenne son rationnel, même si pour moi il n'est pas rationnel. D'accord ? Il y a trois livres, trois recueils fondamentaux de l'islam. C'est le Coran, le hadith, c'est-à-dire les dires et faits de Mohammed, tels qu'ils ont été rapportés par ses élèves, par ses épouses, par ses soldats, par ses fidèles, et la Sirat Rasulullah, qui est l'histoire de la vie de Mohammed, en fait l'histoire du monde jusqu'à Mohammed, mais aussi comme ça s'est exprimé dans la charia et le fiqh, c'est-à-dire le droit théorique et le droit pratique de l'islam, et encore, et finalement, dans la réalité de l'histoire par rapport aux juifs, depuis la période de Mohammed jusqu'à nos jours. Ça, c'est la base qu'il faut absolument connaître si on veut comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Parce que le point fondamental de l'islam, c'est que le droit est fixé par le comportement de Mohammed. Vous avez posé la question des différences fondamentales entre le judaïsme et l'islam. Je crois que ça, c'est un des points fondamentaux. Dans le judaïsme, la morale et les commandements sont absolus. Quand il y a écrit « Lotirtar », tu ne tueras pas, c'est un ordre absolu. Et à la lumière des commandements donnés par la Torah, on va juger toute personne, que ce soit le plus simple des Juifs ou le plus grand des Juifs, que ce soit le badaud de la communauté ou que ce soit Moïse ou Salomon ou David. Les prophètes viennent et leur font des reproches sans le moindre problème.
Donc Moïse peut se tromper, effectivement. Donc dans la Torah, on se gêne pas de montrer que Moïse lui-même a pu se tromper.
Mohammed al-Isma, c'est-à-dire qu'il est infaillible. Il a été bien guidé par Allah. Et donc son comportement est la base du droit musulman. Il faut connaître parfaitement ce qu'a fait et dit Mohammed pour savoir, pour un musulman, pour savoir comment se comporter. Un décisionnaire aujourd'hui de l'islam va se baser sur des faits et gestes de Mohammed pour dire comment se comporter. Ça, c'est un point fondamental. Et il y a d'autres points, bien évidemment, mais il faut donc parfaitement connaître l'histoire de Mohammed pour pouvoir comprendre ce qui se passe aujourd'hui.
Donc, ce que vous voulez dire, c'est-à-dire que si on veut comprendre les liens qu'il y a aujourd'hui entre l'islam et le judaïsme, par exemple, hein, il faudrait voir quel lien a entretenu Mohammed lui-même avec les juifs de son époque.
Absolument, absolument. Et le grand problème qu'il y a eu à son époque, c'est que les juifs du désert d'Arabie, il y avait beaucoup de tribus juives dans le désert d'Arabie, ont refusé de le reconnaître comme prophète. Ils avaient étudié le Rambam. Donc ils savent qu'ils ne correspondaient pas aux critères du Rambam, de Maïmonide.
C'est un peu anachronique, mais j'entends l'idée, oui, effectivement.
Non, c'est pas anachronique. Hein. C'est le Rambam, il est avant l'islam. Hein. Donc c'est dans les temps, parfaitement. Ils connaissaient bien. Surtout, il y avait beaucoup de juifs qui venaient du Yémen. Donc c'est leur maître, puisqu'il les a sauvés. Hein, il y a une guerre de Théman dans laquelle il dit aux juifs qui étaient contraints de se convertir, contrairement à la position qu'avait pris un grand maître ashkénaze, il leur dit « convertissez-vous à l'islam, et puis une fois que l'orage sera passé, après la tempête, vous redeviendrez juif. »
Effectivement,
donc il les a sauvés. Non. Jusqu'à aujourd'hui, les yéménites ont leur droit, leur tradition basée sur l'enseignement de Maïmonide, bien évidemment. Et donc, pourquoi c'était si grave? Parce que nous sommes le seul peuple qui dit que Dieu a parlé aux hommes. On a des prophètes, et le Coran lui-même reconnaît que ces hommes étaient des prophètes. Ils reconnaissent David, ils reconnaissent Salomon. Pour eux, c'était des musulmans, c'était des musulmans, mais ils les reconnaissent. Donc, on a ici la base de la problématique. Parce que Mohammed, voyant que les Juifs ne l'ont pas reconnu, ils sont ses premiers ennemis. Deuxièmement, jusqu'à aujourd'hui, surtout chez les frères musulmans, l'analyse est que les juifs sont le principal ennemi de l'islam. En quoi ils sont le principal ennemi de l'islam? C'est un point fondamental. Parce que la différence des autres peuples qui font des guerres aux musulmans, mais font des guerres pour des intérêts économiques, pour des intérêts territoriaux et autres. Les juifs visent, selon la conception des frères musulmans, à séparer, faire une division entre le musulman et le Coran. Donc à lui faire quitter sa religion. Donc c'est une guerre qui est une guerre spirituelle. C'est comme ça qu'ils le voient. Et donc nous sommes des ennemis les plus fondamentaux puisqu'on touche la racine de leur foi. D'accord ? Donc en général, quelle est ma contribution, comme je l'estime ? C'est que la tendance générale, aujourd'hui dans les cercles spécialisés, c'est de se limiter aux dimensions géopolitiques. Ce sont des vraies dimensions, elles sont importantes, mais elles ne peuvent pas elles seules expliquer le rationnel de cette guerre. Comme je l'ai pressenti en 2000 et comme je le vois encore jusqu'à aujourd'hui. Je vais vous prendre un exemple qui est le plus brûlant. Prenons l'exemple de l'Iran. On n'a pas de frontière commune avec l'Iran. On n'a pas de conflit économique, on n'a pas de conflit industriel, on n'a aucun conflit avec eux. Aucune velléité de causer des dommages à l'Iran. La preuve en est que jusqu'en 79, on avait collaboré avec l'Iran à l'époque du Shah, les aidant à construire des ponts, à avoir des infrastructures et des industries. Or, Khomeini, qui est le fondateur de cette république islamique, avant même d'arriver au pouvoir, dans son livre qui s'appelle « Hukuma Islami », il nous désigne comme le principal ennemi. Et pas le peuple d'Israël, pas les Israéliens, les Juifs. Et les différents gouvernements iraniens, depuis 1979, ont tous posé comme but l'éradication, l'élimination de l'État d'Israël, qui définissent comme un cancer à éradiquer. Et Khamenei, qu'on a heureusement envoyé en enfer, a traduit les livres de Saïd Qutb, qui était le maître à penser, l'idéologue des frères musulmans, qui nous accuse d'être derrière tout ce qui combat l'islam et d'être les ennemis endémiques de l'islam.
Ce qui veut dire qu'on peut trouver là un lien qui unit les chiites et sunnites qui s'opposeraient par ailleurs sur beaucoup d'autres choses, mais dans leur haine du juif, par contre, ils se retrouveraient complètement.
Absolument, absolument, exactement. Sinon, comment il aurait traduit quelque chose d'un sunnite alors exactement. Qu'il y a une haine profonde entre chiites et sunnites.
Là, il nous reste quelques minutes seulement, et c'est un sujet extrêmement riche et profond, et heureusement qu'on pourra en discuter avec vous quand vous serez là à Strasbourg. Maintenant, si on observe le monde actuel, il y a un autre aspect qui est apparu et qui mérite également donc notre attention, puisque on a en particulier les accords d'Abraham dont on parle beaucoup, qui, on le sait, tous ces États qui sont des États arabes musulmans, qui sont pas des États laïques, donc qui également professent l'islam et parlent au nom de l'islam, ont quand même trouvé, semble-t-il, un moyen de ne pas s'arrêter à cela et de créer un lien avec l'État d'Israël. Est-ce que tout cela, c'est une apparence, c'est une vitrine? Qu'est-ce qu'on peut entendre? Pas d'un point de vue géopolitique, comme vous l'avez dit, mais d'un point de vue religieux, peut-être.
Oui, ça, c'est une grande question ouverte. Il y a certainement des pays du Golfe pour lesquels c'est uniquement une question d'intérêt. La peur panique que l'Iran les envahisse, puisqu'ils n'ont pas d'armée sérieuse, et que Israël est le seul pays qui est prêt à mettre en danger sa population et ses soldats pour se battre contre cet ennemi commun qui est l'Iran. Donc ça, c'est un premier point. On voit, des prémices de quelque chose, et surtout que le wahhabisme, qui est la religion, le courant islamique dominant dans les États du Golfe, est profondément antisémite. Mais il y a quand même des signes positifs, surtout chez les Émirats. Où dans les Émirats, ils se basent, certains de leurs sages se basent sur des interprétations des sources musulmanes dans lesquelles il y a un profond respect d'Israël, et il y a le fait que la terre d'Israël dans le Coran est donnée à Israël et sera donnée à Israël. Alors il y a une interprétation différente des frères musulmans, c'est pour qu'on puisse les supprimer plus facilement puisqu'ils seront tous là. Mais il y a quand même des versions traditionnelles tout à fait orthodoxes qui disent non, le peuple d'Israël revient sur sa terre et Allah leur donne. Et donc là, il y a une possibilité de teshuva. C'est le sujet dont on parlera plus en détail dans l'analyse qu'on fera de la teshuva possible d'Ishmaël selon l'enseignement de Manitou.
Très bien. Et maintenant, d'un point de vue peut-être plus profond au niveau de la pensée, si on fait une sorte de retour en arrière, vous avez parlé de Rambam, Maïmonide, qui a été effectivement là pour aider, soutenir les communautés du Yémen lorsqu'elles ont connu des persécutions très grandes de l'islam. Lui-même a dû quitter l'Espagne à cause de cela. Donc il a connu cet islam anti-juif, cet islam extrêmement intolérant. Mais dans le même temps, Maïmonide est peut-être celui qui a le plus apporté à l'intérieur même de la pensée juive toute une réflexion, une pensée philosophique qui est venue également de penseurs musulmans. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas voir là peut-être également une sorte de lien possible et positif entre judaïsme et islam au niveau de la pensée, au niveau de la croyance en Dieu, au niveau de manière générale de concevoir le monde?
Il y a effectivement des points communs. Une fois, quand je suis revenu de France vers Israël, il y a un chauffeur de taxi musulman qui m'a pris en taxi. Il me demande « Où tu vas ?» Je dis « Je vais à Tel Aviv. » Alors il me dit « Dis-moi, t'es croyant ?» Je dis « Mais bien sûr. » Il me dit « Heureusement, parce que sinon je te parlerai pas. » Donc pour eux, ils ont une foi profonde pour laquelle ils sont prêts à se sacrifier. C'est un élément fondamental. Ils sont fils d'Abraham à ce niveau-là. Maintenant, dans quoi ils croient? Alors on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Il faut analyser ça. Est-ce que c'est discutable? J'ai des doutes. Mais est-ce qu'on doit quand même, nous, est-ce qu'on a le devoir de faire l'analyse critique, avec respect, des fondements de l'islam, voir quels sont les points communs et voir quels sont les différents? C'est fondamental. Et je rappelle que Maïmonide a fait pareil. Vous voyez, à la fin de l'Ilkhot Teshuvah, ce qu'il écrit sur Mohammed, il avait un drôle de courage pour faire la critique de l'islam à ce niveau-là. Et malgré tout, On voit que Rabbi Avraham, le fils du Rambam, a des discussions avec des maîtres soufis à son époque, et il y a effectivement des échanges à niveau élevé. Et Manitou nous dit, nous parlait de la beauté des textes des maîtres soufis au niveau de leur poésie et de leur amour de Dieu. On voit rarement dans l'islam, hein, où il y a la crainte principalement, il n'y a pas l'amour. Mais chez les maîtres soufis, on le voit.
Merci
donc
beaucoup.
Pas de jugement blanc et noir.
On aimerait vous écouter encore longtemps. L'émission prend fin. On va vous retrouver pour une troisième émission sur votre livre Étincelle.
Merci beaucoup à vous. Au revoir.